le journal des auditeurs avec Nadir Djennad sur Africa numéro 1. Africa.
Le journal des auditeurs, c'est votre émission. Bienvenue, la parole est à vous pendant 30 minutes sur la radio africaine. Aujourd'hui, jeudi 21 mars 2019, dans le JDA, la situation sécuritaire qui se dégrade de plus en plus au Burkina Faso. Les corps sans vie criblés de balles de deux enseignants enlevés le 11 mars dernier dans la ville de Djibo ont été découverts durant la nuit de lundi à mardi. C'est la première fois que des enseignants sont exécutés dans ce pays. Depuis 2016 environ, 1135 établissements scolaires ont été fermés pour cause d'insécurité. Le pays est confronté depuis 4 ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières qui ont fait plus de 300 morts depuis 2015. Selon les autorités, elles sont menées par des groupes djihadistes. Mais les autorités sont aussi critiquées dans leur lutte contre ces violences. Nous en parlerons avec Ali Traoré, porte-parole en France du mouvement Ballet Citoyen, pour nous donner votre avis sur le sujet. Posez des questions à notre invité. Appelez-nous dès maintenant au 01 55 07 58 00. Mais avant d'évoquer notre sujet du jour, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa numéro 1.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Bonjour, messieurs et madame. Je vais laisser un message pour les Congolais. Vous, Congolais, qui avez toujours soutenu Kabila. Vous, Congolais, qui êtes encore sous domination de Kabila alors qu'il n'est plus président. Vous, Congolais, qui se laisse encore commander par ces messieurs, croyant qu'il redeviendra encore président au Congo. Je vous appelle à vous désolidariser de ces messieurs, parce qu'il ne sera plus jamais président au Congo. Personne acceptera un retour de ce monsieur qui n'a jamais aimé le Congo. Je répète, personne acceptera un retour de ce monsieur qui n'a jamais aimé le Congo. Chers Congolais, je vous prie d'aimer vraiment le Congo, notre pays. Kabila ne travaillait pas pour l'intérêt du Congo. Il travaillait pour son pays d'origine, le Rwanda. Congolais, désolidarisez-vous de ces messieurs. Il doit répondre devant la justice aux actes de bavure que le peuple congolais a subi pendant 20 ans. C'est un Congolais qui aime bien son pays. C'est Henri.
Bonjour aux auditeurs africains et un bonjour particulier à tous les Camerounais. Mon appel de ce matin est un appel de détresse. La crise anglophone qui secoue les zones du nord et du sud-ouest s'approche lentement et sûrement vers la zone du littoral. Malheureusement, nos hommes politiques n'ont pas pris à cœur le problème qui nous arrive. Mais quand on regarde les télévisions camerounaises, on voit que les débats qui sont supportés par les pontes du régime RDPC continuent à nier la crise qui nous secoue. Si on n'arrive pas à maîtriser cette crise-là, c'est tout le Cameroun qui sera embrasé. Et ce n'est pas le souhait des Camerounais. Donc je voudrais aussi également dire à mes frères d'expression anglophone que nous avons tous un combat, c'est le bien-être de tous les Camerounais. Mais si vous commencez à brûler tous les édifices du Cameroun, on ne s'en sortira pas. Il est vrai, M. Paul Biya, ça fait longtemps qu'il est là et il ne pense pas à partir. Mais s'il ne pense pas à partir, il n'est pas inutile qu'on vous rappelle que le Cameroun nous appartient à tous. C'est ce que je voulais vous dire. Bonne journée à tous et à plus tard.
Bonjour à tous les auditeurs d'Africa numéro 1. Je suis vraiment dépassé sur le manque d'autorité du président sud-africain Faustin Archange Touadéra. Je ne comprends pas comment on peut qualifier cette crise d'autorité. Un président élu démocratiquement, qui se fait gérer par des groupes armés, des accords sur accords, aucun accord n'est respecté. Et là, les groupes armés, vous signez un accord avec eux. Je ne sais même pas pourquoi on les appelle pour qu'ils viennent participer au débat et trouver des solutions pour le pays, des bandits comme ça qui tuent la population. On ne sait même pas pour quelle cause. Ils obligent un gouvernement démocratique, des postes régaliens dans le gouvernement pour qu'ils fassent je ne sais quoi. C'est incroyable ça. Et les gens ne savent pas ce qui se passe en Afrique. Merci, William.
Oui, bonjour Africa numéro 1. Aujourd'hui, je suis en colère. Je demande, quand les Barkhane sont arrivés au nord du Mali, et les missements casques bleus qui sont arrivés au nord du Mali. Il y avait les crises au nord du Mali. Aujourd'hui, la crise s'est déplacée, arrivée au centre du Mali. Les gens qui vivent au centre du Mali, à Mouti, à Djéné, ces gens-là, ils sont déplacés, ils sont arrivés jusqu'à Bamako. Ces gens-là, ils ne dorment pas. L'armée internationale, ils sont au Mali, au territoire du Mali. Les Pays-Bas, Allemagne, Grande-Bretagne, la Chine, les États-Unis, la Côte d'Ivoire et le Burkina, Sénégal, les CEDEAO et toute l'armée internationale, ils sont au territoire du Mali. Moi, depuis au début, quand ils ont dit qu'ils vont faire l'intervention au Mali, j'ai dit, ces gens-là, c'est pour aller jouer le Coupe du Monde au Mali. Les Africains, réveillez-vous. Vous connaissez le Coupe du Monde? C'est un gâteau à partager. Arrêtez, ça suffit maintenant. Les peuples maliens, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Les Africains, ils sont fatigués. J'ai dit bravo au Cameroun. Paul Biya qui a refusé d'appeler l'armée française de venir faire l'intervention au Cameroun. Que Dieu bénisse l'Afrique. Merci, bonne journée, au revoir.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 01 55 07 58 00, le 01 55 07 58 00. Aujourd'hui donc dans le JDA, le Burkina qui est confronté depuis 4 ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières qui ont fait plus de 300 morts depuis 2015. L'état d'urgence a été décrété dans 14 des 15 provinces du pays, accordant des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité, dont celui de procéder à des perquisitions à domicile de jour et de nuit. Deux enseignants enlevés le 11 mars dernier dans la ville de Djibo ont été tués et leurs corps découverts durant la nuit de lundi à mardi. C'est la première fois que des enseignants sont exécutés au Burkina Faso. Selon les autorités, ces attaques sont menées par des groupes djihadistes. L'armée a annoncé notamment le 4 février dernier avoir tué, je cite, 146 terroristes dans le nord du pays. Mais dans un rapport rendu public la semaine dernière, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et du peuple accuse des éléments des forces armées burkinabé d'avoir enlevé et exécuté 60 personnes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous allons parler d'ici quelques minutes avec notre invité Ali Traoré, porte-parole en France du mouvement citoyen. Mais avant cela, nous avons en ligne depuis Ouagadougou, Jordan Meda. Jordan Meda, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'intervenir en direct depuis le Burkina Faso. Vous êtes journaliste aux médias en ligne infowakat.net. Merci beaucoup de répondre, oui. De répondre en direct depuis Ouagadougou. Alors tout d'abord, comment expliquez-vous que le pays est confronté depuis 4 ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières qui ont fait plus de 300 morts depuis 2015?
Alors, déjà, il faut savoir que la question du terrorisme est une question assez très large parce que il est ressorti que ces terroristes-là étaient déjà au Burkina depuis des dizaines d'années, voire quelques années, sous le régime Compaoré, et que justement ce serait après la chute de ce régime-là que, à partir d'un mécontentement de ses anciens, de ses anciens alliés, ce mécontentement a engendré aujourd'hui une certaine sorte de riposte, hein, voilà, contre le régime en place. C'est-à-dire que changement de régime, changement de tête, changement de politique,
oui.
Du coup, on crée des mécontentements et voilà, on tente de mettre la pression à l'État pour que ceci revienne à l'ancienne politique, quoi.
D'accord. Alors, les autorités privilégient des groupes djihadistes, en particulier un, le groupe État islamique dans le Grand Sahara, organisation dirigée par un homme nommé Abou Walid al-Sahraoui. Alors, selon les autorités, c'est le groupe terroriste le plus actif du Burkina Faso. C'est pour vous également la principale menace, d'après vous ?
Non, la principale menace pour nous, c'est pas eux, parce qu'en réalité, c'est... pensons que c'est une sorte de, c'est une mutation en fait des grands bandits, voilà, si on peut le dire ainsi,
oui.
Parce que quand on prend l'exemple tout récemment des deux enseignants qui ont été enlevés et décapités, il faut noter que c'est la deuxième ou la troisième attaque qui a été revendiquée depuis quatre ans maintenant,
oui.
En fait, voilà, et le groupe qui a revendiqué l'attaque, c'est le GSIM, c'est le groupe de soutien à l'islam ou aux musulmans, voilà. Donc, le groupe dont l'État parle, à mon avis, n'est pas le principal problème. En fait, le vrai problème, c'est de juguler le souci des groupes non identifiés, des groupes armés non identifiés.
Ce que vous dites, c'est qu'il y a plusieurs groupes, en fait. Il y a plusieurs groupes qui frappent donc le pays.
Bon, en fait, on ne peut pas dire qu'il y a... Si on dit qu'il y a plusieurs groupes, c'est serait exagéré. Parce que jusqu'à présent, comme je vous le disais, toutes les attaques qui ont été perpétrées ne sont pas revendiquées, à l'exception de deux ou trois, dont la dernière. Voilà. Donc, en fait, c'est tous des groupes armés non identifiés. Et chaque fois qu'ils frappent, il n'y a aucune revendication.
D'accord. Alors, vous qui suivez ces enquêtes, est-ce qu'il y a d'autres pistes, selon vous, à part celle des groupes dits djihadistes?
D'autres pistes, à mon avis, c'est pas évident, parce que tout, en fait, enfin, quand on parle d'autres pistes, c'est quoi? C'est surtout en matière de contrôle des régions. C'est ça qui peut expliquer la recrudescence de ces attaques-là. Parce que quand on regarde au Burkina, c'est les deux régions les plus touchées, c'est l'Est et le Nord.
Oui.
Et le mode opératoire à l'Est n'est pas le même qu'au Nord, en fait. Au Nord, c'est plutôt les engins explosifs, hein, artisanaux, qui font le plus de victimes. Pourtant, à l'Est, c'est les enlèvements et les assassinats.
D'accord.
Donc, quand on parle de pistes, on peut être tenté de croire que l'ennemi commun, en fait, c'est l'État.
Oui.
Mais il y a une sorte de guerre pour savoir qui va contrôler, en fait, les zones en question. Parce que depuis des décennies, ces deux régions-là ont un peu été délaissées, en témoigne du fait que le gouvernement a mis un programme d'urgence sur le Sahel qui a été étendu à d'autres régions du Burkina.
Oui.
Donc, en fait, à notre sens, le vrai souci, c'est la question économique, pour savoir qui va contrôler quoi, qui va contrôler où et comment. Donc, en fait, on tente de déstabiliser l'État, de disperser ses forces et de créer une certaine sorte de psychose, hein. Par exemple, pour les enseignants qui ont été décapités, le GSIM qui dit clairement qu'il est contre toute forme d'éducation occidentale, un peu comme Boko Haram au Nigeria. Voilà. En fait, c'est de créer une sorte de peur pour empêcher, si vous voulez, les enseignants de vouloir même aller dans ces zones-là sous affectation. Voilà, parce que de nos jours, on a peur, les écoles ne sont pas clôturées, il n'y a pas assez de sécurité. Et c'est un bon moyen pour eux, en fait, de créer encore plus de peur, quoi. Ouais.
Très bien. Alors, quel est l'état d'esprit de la population, notamment après l'annonce de la mort, hein, de deux enseignants qui ont été tués? C'est la première fois que des enseignants sont tués. Comment réagit-on sur place dans le pays?
Ah, écoutez, c'est la désolation, c'est la consternation, mais c'est aussi... je parle en termes d'enseignants, enfin, du côté des enseignants, c'est la peur. Parce que depuis quelques semaines, le syndicat des enseignants en bras de fer avec le ministère de l'Éducation, pour qu'on tente de revaloriser leur métier et pour aussi avoir plus de sécurité, hein, vous voyez, dans ces régions-là. Mais jusqu'à présent, les accords qui ont été pris ne sont pas tenus. Et donc, du coup, les enseignants ont peur. Vous voyez, ils veulent bien travailler. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Et vous savez que les deux enseignants qui ont été assassinés tout dernièrement, ils sont très jeunes. Ils viennent tout juste de sortir de l'école de formation. Ils venaient tout juste d'être affectés. Et voilà, du coup, personne ne veut encore s'hasarder, en fait, à aller dans ces zones-là.
Très bien.
Donc, c'est un peu ça, quoi.
Très bien. Merci beaucoup, Jordan Meda, d'être intervenu depuis Ouagadougou. Je rappelle que vous êtes journaliste pour le média en ligne infowakat.net. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous accueillons Ali Traoré. Ali Traoré, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Merci d'intervenir également dans le journal des auditeurs. Vous êtes porte-parole du mouvement de la société civile Balais Citoyen. Alors, vous, comment expliquez-vous de votre côté ces violences qui touchent votre pays depuis des mois? Vous partagez la même analyse que Jordan Meda?
Je pense que Jordan, il a bien exposé la situation, notamment les causes et les différents moyens par lesquels ces groupes terroristes se manifestent au Burkina Faso. Ce qu'il faut, il faut retenir, c'est tout simplement que on cherche à déstabiliser le Burkina Faso. Et comme Jordan l'a si bien évoqué tout à l'heure, il y a un fort soupçon de connivence avec l'ancien régime au Burkina Faso sous Blaise Compaoré. Donc, sous Blaise Compaoré, comme vous le saviez tous, Blaise Compaoré était le médiateur dans la crise malienne, notamment. Et dans ces cadres-là, on avait beaucoup de groupes djihadistes qui étaient proches du Burkina Faso et qui logeaient notamment à Ouagadougou et faisaient des va-et-vient de façon assez libre entre le désert, entre la zone sahélienne et Ouagadougou, et ça leur permettait de, en tout cas, de vaquer à leurs occupations tranquillement. Donc, cet état de fait a été, pour une bonne fois pour toutes, est terminé avec le départ de Blaise Compaoré depuis 2014. Et le président Roch, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit, c'était une anecdote qui m'a quand même scandalisé, j'étais scandalisé quand j'ai entendu ça, que des terroristes, des personnes sont venues réclamer des soi-disant véhicules qu'ils avaient achetés avec Blaise Compaoré auprès du président Roch Compaoré. Et la réponse de Roch, c'était, oui, moi je ne suis pas au courant d'un deal de véhicules, allez voir la personne qui est concernée. Et une fois qu'on a dit ça, qu'on a été approché par des personnes comme ça, moi je ne comprends pas que des décisions n'aient pas été prises de façon plus rapide et plus véloce pour pouvoir endiguer ce phénomène-là.
D'accord.
Parce que déjà, il y a des signaux qui ont été montrés, des signaux clairs. Un président d'un pays, d'un État souverain est interpellé par des individus pour des affaires aussi louches. Et il n'y a aucune réaction qui est faite, ces personnes ne sont pas neutralisées sur le champ, déjà ça pose question.
Très bien.
Vraiment, la cause, elle est lointaine, elle vient de là, mais aujourd'hui, on voit que la problématique, elle s'étend, notamment à l'Est, où on a une autre forme de terrorisme, que moi j'appelle un terrorisme opportuniste, où des hommes armés essaient de s'emparer de zones, notamment des mines d'or, pour pouvoir s'enrichir de façon illégale face à la faiblesse de l'État.
Restez avec nous, Ali Traoré. Je rappelle que vous êtes porte-parole du mouvement Les Citoyens en France. Nous allons prendre des auditeurs. Nous avons en ligne Camara. Camara, bonjour. Allô ? Allô, Camara, bonjour. Bon, nous essaierons de joindre Camara un petit peu plus tard. Ibrahim, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à les auditeurs. Bonjour, Gélad.
Oui.
Oui. Oui. Donc, moi, je vais juste ajouter quelque chose à ce qu'Ali Traoré a commencé. Le diagnostic est posé. Hein. Tout le monde est unanime que la cause ou les causes de problèmes, ça vient quand même du régime Compaoré. Ça fait bientôt 2 ans que ce diagnostic est posé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Après les hommes en armes, c'est les hommes en plumes qu'on est en train de tuer. Les militaires, les douaniers, les policiers, bon, ce sont des gens qui s'engagent tout en sachant bien sûr qu'ils s'engagent sur un chemin où ils peuvent à tout moment être tués pour dans l'exercice de leur métier. Mais pour l'assassinat ou les assassinats des enseignants, et franchement, moi je me pose beaucoup de questions.
Oui.
Est-ce que l'État vraiment fait preuve jusqu'à présent de l'amateurisme ou bien ils sont tout simplement incompétents? Parce que ça fait bientôt 2 ans, je ne vois pas de mesures fortes de nature à répondre à ces dangers que nous sommes en train de courir. Je m'explique par là en disant, ils doivent quand même songer à voter tout un budget spécial pour la lutte contre le terrorisme, parce que nous sommes terrorisés.
D'accord.
Et comme a dit le premier intervenant, c'est une psychose qui est en train de s'installer. C'est pour empêcher les gens de vivre tout simplement. Ça veut dire que l'État est absent. Et si l'État est absent, la population est laissée à l'abandon.
Très bien. Donc, pour vous, il y a une absence de l'État.
Oui, il y a une absence d'autorité. Il faut les dire, il ne faut pas s'en cacher.
D'accord.
Moi, au début, j'ai essayé... Vous avez eu à faire des émissions similaires, j'ai intervenu, en disant oui, effectivement, on a besoin quand même de voir l'État prendre des mesures, mais depuis longtemps, on attend, il n'y a rien qui arrive, qu'est-ce qu'il faut dire? Mais on ne peut pas quand même tout simplement dire, ok, il n'y a rien à voir circuler. Il faut que l'État quand même assume sa responsabilité.
Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Ibrahim pour votre intervention. Nous retrouvons notre invité Ali Traoré. Ali Traoré, merci de rester avec nous. Est-ce que vous pensez que les groupes djihadistes sont les seuls responsables de ces violences?
En fait, aujourd'hui, au Burkina Faso, il y a un objectif aussi qui sous-tend ces djihadismes, c'est aussi de déstructurer, je dirais, la cohésion sociale au Burkina Faso. Et c'est ça aussi l'objectif des djihadistes, c'est ça l'objectif de ceux qui ne veulent pas que le Burkina Faso réussisse cette nouvelle ère après Compaoré. Et quand on le voit, on essaie de monter certaines populations contre les autres. On a vu le massacre des Yirgu qui a été vraiment une affaire assez désolante et que nous avons condamné au niveau du balai citoyen. Donc c'est vraiment des tentatives de ces gens-là qui font qu'on essaie de monter les populations les unes contre les autres. Et nous appelons la population burkinabé à rester sereine, à surtout rester soudée pour pouvoir nous ériger contre cette menace-là qui est terroriste, mais qui est aussi une menace liée au banditisme, oui. Notamment à l'est du Burkina Faso.
Ouais. Vous êtes d'accord avec notre premier auditeur qui disait qu'il y a une faiblesse de l'État dans la gestion sécuritaire du pays aujourd'hui ?
En fait, oui, on est tous d'accord qu'il y a une certaine faiblesse face au terrorisme. Maintenant, il faut qu'on pose un autre diagnostic et qu'on fasse un autre constat, c'est que le terrorisme, c'est une problématique aujourd'hui mondiale. Nous la retrouvons partout sur la planète. À commencer par le Moyen-Orient, et même en Europe, on a des attaques terroristes, en Afrique, en Asie et même en Océanie aujourd'hui. Donc ce qui se passe, c'est que c'est une problématique globale qui n'est pas assez bien traitée. Il y a déjà au niveau international un déficit de solutions, un déficit d'unité contre le terrorisme qui fait que le terrorisme se propage. Un coup, on combat le terrorisme en Syrie, après le terrorisme s'étend ailleurs. Pendant que les Américains et les Russes sont en train de jubiler pour avoir gagné en Syrie, derrière en Afrique, la chienlit se pose et elle s'installe. Personne ne fait quoi que ce soit au niveau international pour avoir une vision globale de lutte contre le terrorisme. Ça, c'est le premier manque. Le second manque, c'est au niveau africain. Les États africains, notamment, ils essaient de se structurer pour répondre à cette menace.
Oui. Mais c'est trop notamment long, avec le G5 Sahel dont fait partie le Burkina Faso.
Et d'ailleurs, c'est le Burkina aujourd'hui qui a pris la tête du G5 Sahel cette année. Oui. Mais le G5 Sahel n'est pas suffisant parce que tout simplement, le G5 Sahel s'appuie sur des demandes de financement que les États n'ont pas. Ce qui veut dire que les États n'ont même pas adapté leurs moyens de réponse à cette menace, à leurs moyens financiers. Ça, déjà, c'est une problématique. Et donc, il faut vraiment prendre cette problématique et l'adapter aux différents territoires. Oui. Aller vers les populations pour les intégrer dans cette lutte, pour que les populations aident les forces de défense et de sécurité dans leur travail, dans leur mission, signalent les mouvements et les personnes suspectes. Et vraiment, c'est toute une politique qu'il faut déployer. Une politique à la mesure de nos moyens financiers, mais une politique aussi rapide, efficace. Parce que depuis longtemps, on l'a vu en Syrie, on l'a vu en Libye, quand le terrorisme s'installe, c'est pour de bon.
D'accord.
Et quand c'est comme ça, il ne faut pas le laisser s'installer. Et au Burkina, on a la chance que les terroristes ne sont pas encore installés et on doit faire vite et agir plus rapidement.
Restez avec nous, Ali Traoré, nous allons prendre des auditeurs. Nous avons tout d'abord, Camara. Camara, bonjour.
Bonjour,
on vous écoute, Camara, bienvenue.
Ouais, et au fait, il y a 3 mois de cela, sur votre antenne, moi j'avais une chose. Parce que, c'est-à-dire, confondre les deux faits, parce que quand l'histoire s'est commencée depuis 2012 au niveau du Mali, et cette inquiétude, moi j'avais déjà suggéré.
Oui.
Et c'est pas d'abord une situation de terrorisme, parce que faut chercher des.
Ouais. Pour vous, c'est pas du terrorisme, c'est ça?
Ouais. Non, c'est pas du terrorisme. Ouais. C'est un système qui a été mis en place. Parce que quand le maintien d'ordre doit payer plus de 300 000 francs CFA par jour, donc nous, en tant qu'Africains, moi, je représente pratiquement la majeure partie.
S'il vous plaît, monsieur, intervenez. Essayez de vous mettre dans un endroit tranquille ou peut-être que vous conduisez. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui que vous êtes.
Interpellé par la police à la circulation.
Oui. Donc, c'est interdit de conduire, avoir son téléphone au volant, monsieur. C'est peut-être pour ça.
Oui, non, je disais que ça va affecter même le Burkina, ce manque de sécurité.
Oui.
Parce que c'est un système pour pouvoir faire gagner, c'est-à-dire encore, si je veux dire, nos colonisateurs. Parce que le système de paix, ça arrange. Ça arrange quand les gens le maintiennent de paix.
Oui.
C'est-à-dire, le gain même de nos ministres ne peut pas arriver ça par jour. Tant que ce mal-là n'a pas été fini, on ne pourra jamais avoir gain de cause.
Oui.
On va s'entretuer pour rien.
Parce
qu'il ne faut pas qu'on se voile la face. C'est-à-dire, quand quelqu'un il cherche une aiguille avec toi et que lui, il a le pied dessus, mais comment vous allez faire pour le retrouver?
Très bien. Merci beaucoup. Merci, Camara, pour votre intervention. Nous avons en ligne Ibrahim. Ibrahim, bonjour. Allô? Allô, Ibrahim, on vous écoute?
Allô?
Allô, Ibrahim, on vous écoute, bienvenue.
Oui, oui.
En fait, j'appelais par rapport au Burkina.
C'est le sujet du jour, oui, on vous écoute.
Voilà, donc je pense que le problème vient de Kaboré, lorsqu'il a détruit le dispositif sécuritaire de Blaise,
oui.
qui reposait sur Diendéré.
Oui.
C'est vrai que ce dernier a commis des actes délictueux, mais c'était nécessaire...
Ce que vous dites, c'est qu'il y avait, il y avait une relative sécurité lorsqu'il y avait Blaise Compaoré au pouvoir. C'est ce que vous dites.
Il y avait une sécurité évidente, pas oui. relative, elle était claire et nette.
Oui.
Je suis pas burkinabé, donc mais je suis un peu.
Oui.
Je sais que c'était calme, il y avait pas de terrorisme, tout ça.
Oui.
C'est vrai qu'il y a eu un changement de régime, certes.
Oui.
Mais le problème, c'est que quand on change de régime en Afrique, les gens ils font la chasse aux sorcières. Je ne dis pas que Diendéré il est saint, qu'il n'a pas commis des actes, des choses, mais il fallait d'abord collaborer avec lui pour avoir des informations, pour qu'il forme d'autres personnes. Et ensuite, si on veut se débarrasser de lui, on se débarrasse de lui. Et puis, voilà. Mais on a tout détruit, il fallait tout recommencer à zéro. Donc, voilà le problème.
Mmh.
Donc, mais il y a une solution. Il y a une solution. Il a toujours certainement ses réseaux, donc il faut discuter avec lui, et puis bon, voir dans quelle mesure il peut aider son pays. Il sait qu'il aime bien son pays, donc
d'accord.
Il n'y a pas de raison. S'il a une contrepartie, il a peut-être sa liberté, il pourra intervenir.
Ce que vous dites, c'est que pour lutter contre les violences actuelles, pour lutter contre le terrorisme, le régime actuel doit travailler avec l'ancien régime, c'est ce que vous dites.
Voilà, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent, vraiment, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont qu'à laisser les principes de moralité, de démocratie, tout ça. La réalité du terrain, il faut être pragmatique. Il faut le pragmatisme, c'est important. Voilà.
Très bien. Merci pour votre intervention, Ibrahim. Nous retrouvons notre invité, Ali Traoré. Alors, Ali Traoré, dans un rapport rendu public la semaine dernière, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et du peuple accuse des éléments des forces armées d'avoir enlevé et exécuté 60 personnes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Y a-t-il des dérives, selon vous, dans cette lutte contre le terrorisme aujourd'hui?
Je pense que je veux profiter de cette question d'ailleurs pour pouvoir répondre aussi à ce que notre auditeur Ibrahim vient de dire,
oui.
Sur lequel je suis pas du tout d'accord.
Bien sûr, allez-y. Oui, donc, concernant le dialogue avec l'ancien régime pour lutter voilà, contre le terrorisme.
Concernant le dialogue avec l'ancien régime, nous de toutes les façons, nous ne sommes pas pour cette approche cynique qui est de travailler avec des gens et après les liquider. Ce n'est pas du tout les méthodes que nous approuvons. Et de toutes les façons, aujourd'hui, on voit avec le procès de Diendéré que ce monsieur n'est même pas capable de reconnaître son propre ordinateur. Donc comment voulez-vous que nous fions à lui pour la sécurité de millions de personnes? Donc soyons sérieux à un moment donné, regardons des choses factuelles et la sécurité d'un pays ne peut pas reposer sur une seule personne.
D'accord.
Si Diendéré était si bien avisé, il n'aurait pas fait un coup d'État qui a été qualifié par tout le monde entier du coup d'État le plus bête au monde. Maintenant, ça me permet de revenir à cette question. Oui, Diendéré en tant que citoyen, comme tous les citoyens du Burkina Faso, doivent être intégrés dans ce processus de lutte contre les terroristes.
Oui.
Contre les terroristes. C'est une question d'unité nationale. Et d'ailleurs, nous, on se place au-dessus de tout ce qui peut être analyse partisane, analyse faite à la va-vite, pour pouvoir nous mettre dans une vision de cohésion, dans une vision d'unité nationale derrière nos forces de défense et de sécurité dans cette lutte-là. Parce que c'est 500 Burkinabés, civils et militaires, qui ont perdu leur vie depuis le début de ces attaques. Donc on ne peut pas aujourd'hui à chaud faire des analyses pour accuser l'armée sans des preuves formelles. S'il y a vraiment des preuves formelles, nous invitons le MBDHP à déposer plainte afin qu'il y ait des enquêtes qui soient menées, qui clarifient cela et qui restituent les responsabilités.
D'accord.
En tout cas, de toutes les façons, nous appelons les forces de défense et de sécurité à continuer à agir de façon efficace dans le respect des règles internationales, mais
d'accord.
aussi dans le respect des droits.
Mais vous êtes d'accord, par exemple, avec le rapport rendu public par le mouvement burkinabé des droits de l'homme et du peuple concernant les dérives de certaines forces armées burkinabées dans cette lutte contre le terrorisme?
L'armée burkinabé, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu de rapport stipulant que l'armée burkinabé a eu à faire des dérives jusqu'à aujourd'hui. C'est la première fois. Donc nous prenons ces informations avec des pincettes et nous demandons à ce que les autorités compétentes, notamment la justice, fassent une enquête et restituent les responsabilités. Nous ne pouvons pas être d'accord ou contre parce que nous n'avons pas d'éléments factuels qui prouvent la culpabilité ou non, ou plutôt l'absence de qui que ce soit. Mais jusque-là, nous sommes sur la présomption d'innocence.
Très bien. Restez avec nous, Ali Traoré. Nous avons en ligne Brice. Brice, bonjour.
Oh, bonjour.
Allô, bonjour, on vous écoute, Brice.
Ma remarque serait la suivante, en fait, c'est que, en fait, pour réagir à ce que disait Brahim, quelque part, il demande à ce que l'autorité se soumette et se rende presque otage de l'ancien régime. Mmh. Alors, malheureusement, la France n'est toujours pas loin de ces affaires-là, puisque grâce à elle, il y a un ancien dirigeant qui a été délogé et qui, bien entendu, en tant qu'ancien délogé, voudrait rendre l'instabilité dans le pays pour pouvoir revenir. Et c'est bizarre qu'on ait une autre lecture que cela, en fait. Mmh. Moi, c'est simple, c'est enfantin. C'est un ancien régime qui aimerait revenir avec un appui extérieur ou pas.
Oui.
Et voilà, donc je sais pas pourquoi.
Un appui extérieur, c'est-à-dire préciser votre pensée.
Bah, c'est-à-dire que la France, en fait, elle est derrière ça.
La France, alors ce que vous dites, c'est que la France est derrière les violences commises au Burkina Faso.
Je dirais pas qu'elle est derrière les violences, mais elle est derrière déjà le maintien en liberté d'un ancien président qui a beaucoup à répondre devant son pays. Je rappelle que c'est grâce à la France qu'il a été exfiltré en Côte d'Ivoire, et parce que la France le soutient, ça. Si la France ne soutenait pas, il serait déjà au Burkina Faso en train de rendre des comptes.
Oui.
Mais bon, c'est pas le cas. Et plus bizarrement, M. Kaboré, apparemment, il est anti-France-CFA, ce monsieur-là. Alors, je trouve que les pays déstabilisés en Afrique sont généralement ceux dans lesquels il y a des positions qui sont, on va dire, très, très inadéquates avec les intérêts français, en tout cas pour les petits francophones. Voilà, moi, c'est tout ce que je voulais suggérer.
D'accord.
Et
bon.
Que des lectures, ok, il y a des déstabilisations internes, mais qu'il n'y ait que ces lectures-là, moi, je ne suis pas d'accord. Il y a toujours des éléments extérieurs qui font qu'un pays est déstabilisé. Et bizarrement, cette lecture-là est généralement difficile à entendre de la part des gens. Alors, qui dit éléments extérieurs dit soit Côte d'Ivoire, soit la France. Et c'est pas.
D'accord. Mais merci Brice pour votre intervention. Alors Ali Traoré, vous venez d'entendre Brice. Alors que répondez-vous à ces accusations d'ingérence extérieure concernant la situation sécuritaire au Burkina Faso?
Vous savez, de toutes les façons, ces accusations sont légion, notamment sur la France. Et
oui.
Ça revient tout le temps dans toutes les affaires.
Oui.
Ça revient dans le cas du Mali. Et là, il y a notre auditeur Brice qui relève cela dans le cas du Burkina. Mais moi, j'invite les auditeurs à lire seulement le livre d'Antoine Glaser, nos chers espions en Afrique, où on voit jusqu'à quel point la France privilégie d'abord ses intérêts plutôt que de neutraliser des terroristes. On y voit des témoignages de personnes qui sont au contact des services de renseignement, qui sont renseignées, mieux renseignées que moi en tout cas, sur ces sujets-là, qui disent que la France, à un moment donné, laisse filer certains terroristes juste pour ses intérêts ou juste pour mieux infiltrer les réseaux. Donc maintenant, c'est ce que moi, j'essaie toujours de dire, c'est aussi la position du balai citoyen, c'est que nous, Africains, nous devons être indépendants de la France.
Oui.
Indépendants dans tous ces domaines-là. C'est pourquoi c'est important pour nous de reconstruire notre système sécuritaire, de nous donner les moyens de nous défendre nous-mêmes, d'assurer notre sécurité. Parce que d'abord, la France qui intervient en Afrique, c'est naturellement pour défendre les intérêts français d'abord.
Oui.
Pourquoi la France dépenserait des milliards pour pouvoir venir tout simplement protéger les Africains? Cela n'est pas naturel, ce n'est même pas juste. Ce qui est, c'est que nous, les Africains, nous devons prendre conscience que notre sécurité, elle est importante.
Oui.
Le monde dans lequel nous évoluons est un monde dangereux. Et tout État, naturellement, doit se protéger et doit se munir des moyens pour le faire de façon indépendante. Et s'il le faut, pourquoi pas penser une sécurité à l'échelle de la CEDEAO? Parce que c'est là le vrai échelle.
Oui.
Aujourd'hui, nous voyons le G5. Mais le G5, c'est un outil de 5 pays dans un environnement beaucoup plus global.
Mais il n'est pas efficace, selon vous, le G5, pour lutter contre, contre les violences dans les pays de cette région, et en particulier le Burkina Faso?
Bien sûr que non. Un pays comme le Sénégal, qui est très important dans les dispositifs sécuritaires en Afrique de l'Ouest, n'est même pas dans ce G5 Sahel. Pourquoi? Parce que tout simplement, au niveau de la CEDEAO, il n'y a pas une volonté de mettre en place, on va dire, une armée de la CEDEAO, une armée chargée de la sécurité. Quand il a s'agit de déloger Yahya Jammeh de la Gambie, la CEDEAO s'est mobilisée. Il y avait une armée qui a été. Mais pourquoi on n'est pas capable de faire la même chose au niveau de l'Afrique de l'Ouest? Ce sera la bonne solution. Moi, je pense que c'est le bon angle d'attaque de la question sécuritaire.
Très bien. Merci beaucoup Ali Traoré d'être intervenu sur l'antenne d'Africa numéro 1. Je rappelle que vous êtes porte-parole en France du mouvement de la société civile Ballet Citoyen. Merci beaucoup à Jordan Meda d'être intervenu depuis Ouagadougou hein, pour nous parler de la situation sur place. Et merci aux auditeurs hein, pour vos interventions. C'est la fin de cette émission, mais continuez le débat sur notre page facebook.com/journaldesauditeurs. Et merci beaucoup à Maxime qui réalisait cette émission. Demain, vous retrouverez Stéphanie Hartmann pour le journal des auditeurs.